Nous sommes le 10 août en plein milieu de la fête médiévale du serment de la Franche-Pierre à Remiremont, organisée par la Volontaire. L'histoire raconte que les ducs de Lorraine devaient prêter serment de protéger le chapitre des dames chanoinesses de Remiremont. Ce serment devait être prêté 3 fois sur la Franche-Pierre devant le premier hôtel de ville de Remiremont et à l'église abbatiale. La Franche-Pierre était un monolithe situé à l'entrée de la rue du même nom. Les ducs de Lorraine ont marqué l'histoire de cette rue, connue autrefois sous le nom de rue Saint-Jean, puis rue des Rasoirs pendant la Révolution, avant de devenir la rue de la Franche-Pierre au XIXe siècle. La Franche-Pierre aurait été détruite au XVIIIe siècle.
J'ai fait la rencontre de Stéphane Ailly, qui est président de la Société d'Histoire de Remiremont. Comme c'est la fête médiévale du serment de la Franche-Pierre, c'est important de faire un point sur l'histoire, la très riche histoire de la ville de Remiremont.
Ah ben, l'histoire de Remiremont est très riche, en effet. Là, on est devant des panneaux qu'on ne voit pas à la radio, forcément, mais sur l'histoire du Saint-Mont, qui est en quelque sorte à l'origine de l'histoire de Remiremont, hein, puisque les moines, les moniales, alors ça a été monastère masculin, féminin, au bout d'un moment sont descendus dans la vallée, parce que bon, les conditions là-haut au Saint-Mont sont parfois de moins en moins avec le fameux réchauffement climatique, mais difficile là-haut. Donc voilà, l'histoire du Saint-Mont et l'histoire de Remiremont sont liées. Ce qui est spécifique à Remiremont, c'est que on a un quartier historique qui est dans son jus, quoi, parce que ça n'a pas été détruit lors des récentes guerres mondiales, comme ça a pu l'être dans d'autres villes, principalement on est dans les Vosges, donc comme Saint-Dié, Épinal, qui ont été en partie détruites. Voilà, Remiremont, comme Neuchâteau à l'ouest du département, voilà, est resté, il n'y a pas eu de dégâts. Donc voilà, on est au pied de l'abbatiale qui date, à part des incendies qui ont eu lieu. Dans les siècles passés, voilà, c'est resté avec le quartier tout autour, le quartier, comme on l'appelle, canonial, hein, où résidaient les chanoinesses. Le quartier est intact, ce qui fait tout son charme. Voilà. Là, cette fête fait surtout référence à la reconstitution qu'il y avait eu j'avais plus la date en tête, mais je crois que c'est en 1950, où on avait reconstitué ce serment de la Franche-Pierre, hein, où le duc de Lorraine venait prêter serment auprès des chanoinesses. Donc, parce que Remiremont, c'est quand même les chanoinesses qui avaient un certain pouvoir par rapport au duc de Lorraine, puisque la Lorraine n'était pas française. Le duc de Lorraine, le Remiremont était un peu un état dans... un état dans l'état. Et les chanoinesses avaient un pouvoir certain. C'est ça le serment de la Franche-Pierre. Donc avait donné lieu à une reconstitution grandiose en 1950. Et d'où l'idée de reperpétuer à nouveau cette fête en 2024-2025.
Je suis Adalbert, comte de Metz et premier duc de Lorraine. Je ne suis pas resté très longtemps duc de Lorraine. J'ai été assassiné très peu de temps après par un jaloux. C'est mon frère qui m'a succédé, Gérard d'Alsace, qui est devenu le deuxième duc de Lorraine. Et mon épouse, Clémence, on pense, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr, c'est très loin, c'est 11e siècle. Donc Adalbert n'a pas vécu très longtemps, mais on n'a pas beaucoup de traces écrites. Ce que l'on est sûr, c'est que le second duc de Lorraine, Gérard d'Alsace, donc mon frère, est venu mourir à Remiremont. Il est enterré à Remiremont.
Par quelle faille spatio-temporelle avez-vous pu passer pour vous retrouver ici avec nous en 2025?
Eh bien, il y a une boutique ici qui fait rêver et qui nous permet de nous transporter dans un autre monde et surtout dans le temps. Donc là, il y a un magicien, un grand magicien, qui s'appelle Monsieur Frédéric, qui nous transporte vraiment dans une autre époque.
Puis nous avons retrouvé nos chanoinesses, puisqu'il y avait énormément de chanoinesses ici, et qui vivaient en harmonie avec le pape, puisque c'était le pape qui avait main sur elle, et elle n'avait affaire qu'à lui. Elle n'avait pas affaire aux évêques, aux prêtres, donc elle menait la vie qu'elle voulait. Elle prononçait leurs vœux, mais elle ne faisait pas vœux de chasteté. elles vivaient, elles avaient, dans Remiremont, on voit plein de maisons qui appartenaient aux chanoinesses, et elles sont encore indiquées un peu partout. Et si vous pouvez voir, un peu partout, les maisons avec le titre des chanoinesses qui vivaient ici.
Les plantes, un élément indissociable de l'ère médiévale, en particulier la médecine, tout ce qui est soins. Et aujourd'hui, j'ai trouvé dans les rues de Remiremont Christelle, qui représente l'association Berian, association naturaliste et historienne.
On s'est rendu compte qu'en fait, histoire et nature sont souvent mêlées et vont souvent ensemble. On voit bien justement, à l'époque, on avait vraiment ce lien entre nature et humain, en fait, où on se rendait bien compte qu'on retrouvait déjà notre nourriture, déjà, rien qu'élément principal, et puis aussi tout ce qui nous sert à nous soigner, nos vêtements, faire nos vêtements. Aujourd'hui, par exemple, je porte une robe en lin. À l'époque, ça se faisait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et justement, effectivement, le lien à la nature était très important. Ne faites pas que couper le pissenlit. Cueillez-les aussi, arrachez-les et mangez-les en salade.
Les Amis des Lévriers regroupent majoritairement des adoptants de galgos et podenco rescapés de la maltraitance en Espagne. L'objectif de l'association, c'est effectivement de participer à des manifestations pour raconter l'histoire des lévriers à travers les âges, mais aussi parler de leur sort en Espagne.
En quelques mots, l'histoire des lévriers à l'époque médiévale.
C'était les chiens royaux. Seuls les nobles pouvaient en posséder et chasser avec. Le peuple ne pouvait pas en avoir. C'était punissable. Ce sont des chiens de meute. D'ailleurs, en Espagne, et même en France, quand les rois, les seigneurs chassaient avec, c'était toujours en meute. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas encore de fusil, ils chassaient encore à l'arc. Et c'était les chiens qui faisaient le boulot, quoi. Et en Espagne, donc le seul pays aujourd'hui qui chasse encore avec des lévriers, ils chassent avec des meutes de chiens qui ne soignent pas, qui sont affamés. Et si le chien abîme le gibier ou rate une chasse, il est considéré mauvais chasseur. Sa mort doit être lente et douloureuse. C'est le précepte de base, dit leur tradition. C'est le seul pays dans lequel le lévrier ne fait pas partie des êtres vivants doués de sensibilité. Ils sont classés parmi les outils, comme votre tournevis.
Est-ce que le lévrier a gardé encore quelques instincts de chasseur ?
Tous les lévriers naissent avec cet instinct de chasse, même ceux qui sont en élevage.
Je suis chevalier Durand de Charnier. Je torture et massacre des gens de père en fils depuis plusieurs générations. Je fais bonne figure devant le seigneur local Évrard de Vaxoncourt, qui gère tant bien que mal les insurrections ici et là, des raids vikings dans les villages alentours. Oh, je prends un petit peu tout ce qui me passe sous la main. J'aime bien les épées longues, mais mon maître d'armes n'aime pas que je joue un peu trop avec ça parce que j'ai tendance à frapper également mes amis. Donc, je reste sur de l'épée basique afin de commettre le carnage le plus propre possible. C'est important de faire les choses bien.
Donc moi, je suis de la confrérie médiévale de l'âge de Briey. Et là, on fait beaucoup de démonstrations de tir à la hache.
Alors, ne te penche pas en avant, ça sert à rien. Voilà, tu gagneras rien du tout.
C'est quoi un bon lancer de hache ?
C'est quand tu tires et puis que ça plante. Le conseil, c'est la manière dont tu tiens la hache et dont tu la lances. Tu vois, regarde comment il la tient. Voilà.
En fait, c'est une technique où il faut lever le bras et faire l'impulsion, pas l'impulsion avec le poignet, mais avec le bras, en fait.
C'est de l'exposition de jeux en bois, notamment aussi du combat en armure, donc du combat lourd. Qu'est-ce qu'on fait ? On présente aussi donc, un petit campement, quelques armes, arbalètes, canons, donc de la période du Moyen-Âge. Et puis voilà quoi, donc c'est beaucoup de surveillance aussi au niveau des jeux parce qu'il y a beaucoup de gens.
Donc, c'est du traditionnel ?
Pas toutes. Certaines choses comme le trou madame qui pouvait exister à l'époque.
Alors c'est quoi le trou madame ?
Le trou madame, c'est celui-ci avec les fentes verticales. Et le but du jeu, c'est de mettre des... Donc il y a 5 palets, ronds. Il faut les faire rouler dans les fentes, hein, donc le trou madame. Je fabrique pas mal aussi d'armure, moi-même, de pièces d'armure, tout ça. Alors au niveau de l'habillement, donc en dessous, on peut retrouver donc le gant bison. Donc c'est une couche, à l'époque, c'était donc des couches de chanvre ou de lin qui étaient fourrées avec de la paille ou avec de la laine de mouton, des trucs comme ça. Donc c'était vraiment donc un rembourrage spécialement conçu pour amortir les coups reçu sur le harnois blanc. Le harnois blanc, c'est l'armure. Donc c'est l'armure métal. Et donc du coup, c'était ce qui faisait l'amortissement entre ta peau et l'armure. Il fallait savoir choisir entre la lourdeur, le déplacement, la protection. Donc du coup, on essaye, voilà, nous on ne met pas de côte de maille, donc on vient directement mettre dessus une armure ou une brigandine. Donc brigandine, c'était des plaques qui étaient intégrées, soit tu as de la peau, soit tu as des couches de lin, de laine. Donc c'était mis en intérieur, à l'intérieur, donc comme un gilet en cuir ou peu importe. Et c'est ce qui permet d'être un peu plus mobile qu'une armure.
Tout au long de la journée, eh bien, ces conférences, défilés, spectacles de cracheurs, de feux, serments de la Franche-Pierre, danse médiévale ou encore duel de chevaliers.
C'est la première fois qu'on vient voir, c'est les costumes, c'est magnifique en fait. Ils ont des armes, tout ça, c'est super bon. On est en train de se dire qu'ils doivent avoir vachement chaud sur leurs costumes. Ça permet de voir aussi comment ça se passait dans le temps. C'est ça aussi, hein.
Ça doit faire du poids sur les épaules, tout ça. Oui, oui, oui.
Puis aussi les paysans, là, c'est beau. Avec les ânes, tout ça, c'est vraiment bien fait. Les poules et tout, c'est super joli. Les moutons, j'ai vu qu'il y avait la bergère aussi, c'est chouette. C'est bien. C'est beau.
C'est génial de revoir des choses du passé comme ça. Ça rappelle des. Voilà, il y a certaines époques qu'on aurait mieux vivre. Hein. On aurait bien aimé les vivre, ces époques-là.
Ah oui, c'est une belle époque. Ça avait l'air d'être une belle époque, hein, toujours. Je pense que j'aurais aimé connaître, moi, perso. Ouais.
Ah, cool.
Ah oui, c'est vraiment une belle découverte, hein, franchement.
Ça lasse pas de voir ça, par
exemple. Ouais, ça lasse pas.
D'ailleurs, je vais profiter.
Merci. Nous sommes avec Chantal de l'association La Médiévale, alors avec plusieurs pôles l'association, mais toi Chantal, tu t'occupes de la danse.
Voilà, c'est ça, moi je m'occupe de la danse. Voilà, c'est comme dirait le président, je suis maître de danse, c'est-à-dire que je fais des chorégraphies et après on trouve des musiques médiévales pour pouvoir mettre les chorégraphies dessus.
C'était tout un travail de recherche. J'imagine que les sources pour retracer un petit peu les danses ne sont pas forcément très accessibles.
Ben, c'est pas accessible et en plus il n'y avait pas 36 pas, il n'y a qu'un seul pas de danse médiévale. Parce que ça s'appelle le branle et le branle double. C'est-à-dire que c'est très basique et seulement après à la Renaissance ça change. Mais en médiéval on n'a que ça, on n'a qu'un pas et il faut se débrouiller avec ça pour faire des figures, des chorégraphies que les gens aiment, donc c'est tout ce qu'on met autour. À l'époque, le médiéval, tout était caché, et nous, on respecte le médiéval. C'est-à-dire que nous, on n'a que du coton, qu'on se fabrique soi-même. Tous nos costumes sont faits soit par nous, soit par notre couturière. On achète les matières premières et après, on fait.
C'est des instruments traditionnels ?
C'est ça, voilà, ce sont des instruments de l'époque du Moyen-Âge. Et donc, on a tout un panel d'instruments, à commencer par les percussions. Et puis après, on a les instruments à vent. Ensuite, on a les cornemuses, l'évolution, des instruments avec des hanches, des instruments à vent avec des hanches. Puis ensuite, on a les instruments à cordes. Et puis après, on a un petit atelier pédagogique sur la musique au Moyen-Âge et comment on l'a retrouvée, sous quelle forme, l'écriture et puis notamment un recueil d'épinal, justement.
Ça se trouve encore, les instruments comme ça d'époque, ou c'est vous qui les fabriquez ?
Alors, certains sont faits par des facteurs. Donc, pour les cornemuses, ce sont des facteurs d'instruments. Pour les instruments à cordes type guiterne, c'est aussi un facteur qui l'a fabriqué. Et puis, voilà, il y a aussi des instruments qu'on retrouve dans les Vosges, notamment l'épinette des Vosges, hein, On est un groupe qui s'appelle le groupe Toroul Boroul. Okay, voilà, ce qui signifie Tohu Bohu en ancien français. Ah. Alors là. Alors ça prend un peu de temps parce qu'à la cornemuse, c'est un instrument à air. Et donc on faut gonfler la poche avant de sortir une note. Donc, au-dessus, on a ce qu'on appelle le bourdon qui va faire la note. Et en bas, on a ce qui s'appelle le hautbois de la cornemuse.